les podcasts de l'Institut du Monde Arabe. L'Institut du Monde Arabe vous propose de découvrir la création littéraire arabe contemporaine sous toutes ses formes, à travers des entretiens avec des auteurs et autrices. Dans cet épisode, Bernard Manier reçoit Ferhat Alani pour son roman « Je me souviens de Fallujah ».
Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là pour la rencontre avec Ferhat. Ferhat est né à Paris en 1980. Les dates sont importantes, de parents irakiens. Il est journaliste, grand reporter. Il était correspondant à Bagdad pendant un certain nombre d'années. Il a travaillé à la fois dans la presse écrite, mais aussi en télévision à Arte, France 24, Canal+. Il vit aujourd'hui à Dubaï et nous l'avions reçu une première fois pour ce livre, Le Parfum d'Irak, un livre très étonnant qui est un livre composé de 1001 tweets. Donc c'est assez original dans sa formule. Et il y avait des dessins, des illustrations qui étaient dues au talent de quelqu'un qui s'appelle Leonard Cohen, comme l'autre Leonard Cohen, mais lui s'exprime par le dessin et non pas par la chanson et la musique. Et puis le deuxième livre tourne autour du même thème, cette fois Fallujah, ma campagne perdue. Et il s'agissait d'un roman graphique avec des illustrations de Halim, cette fois, et c'était publié aux éditions Stenkis. Enfin, Je me souviens de Fallujah, publié aux éditions Jean-Claude Lactès, le même nom, Je me souviens de Fallujah, donc un même thème, mais trois versions, en quelque sorte, peut-être de quelque chose qui est très prégnant chez Ferhat. Et on va entendre un extrait.
Dans la chambre 219, il continuait à me regarder avec ses yeux d'étranger. J'ai tenté de lui expliquer pourquoi il passerait dorénavant ses journées et ses nuits dans cette clinique. Lui qui usait souvent de métaphores comprendrait qu'il était désormais un livre avec de nombreuses pages arrachées, que sa mémoire semblait s'être en partie effacée à la manière d'un puzzle dont la maladie aurait supprimé de nombreuses pièces. Puis je lui ai assuré qu'il pourrait me poser autant de questions qu'il le souhaiterait. Enfant, c'était moi qui le questionnais. Qui sommes-nous? Suis-je à ma place en France? Pourquoi vivre pour mourir à la fin? Qu'est-ce qui fait qu'une personne est une personne? Mon père prenait mes interrogations à la fois avec sérieux et inquiétude. Pour ce faire, il employait des allégories, surtout quand il était ivre, dont une m'avait profondément marquée. Un soir, il m'avait proposé de m'asseoir près de lui. L'homme à l'ivresse nostalgique, souvent silencieuse, était soudain devenu bavard. Il avait baissé son casque filaire sur ses épaules, et le grésillement du maram irakien avait enjolivé le salon d'un air ancien. Mon père avait décidé d'apporter un éclaircissement à mes questions comme s'il y songeait depuis un moment. Sa réponse, qui m'avait paru tout droit sortie des contes d'Andersen, que je dévorais alors, tenait en ces quelques phrases. « Mon fils, toi et moi, nous sommes des voyageurs. L'identité est un long voyage solitaire. » Chaque voyageur porte une valise. C'est une valise que tu ne vois pas. Elle est invisible, mais elle est là. Au cours de ton existence, cette valise va se remplir de rencontres, d'objets, de souvenirs, d'expériences bonnes et mauvaises. Pour qu'elle ne soit pas trop lourde et pour que tu puisses avancer, tu devras enlever certaines choses inutiles et garder les plus importantes. Il faudra faire le tri, car face au poids des mots, des rencontres, de l'adversité, de l'amour et de la haine, des victoires et des défaites, les épaules du voyageur se voûtent. L'identité, mon fils, est un long périple. À toi de le rendre le plus léger et le plus droit possible. Sache qu'on n'est pas. On devient. On devient. Deux mots dont je ne soupçonnais pas encore la force. Comment pouvait-il résumer l'existence? On devient n'était pas tout à fait une réponse. C'était un outil dont il fallait se servir. Toute ma vie, je me suis accrochée à ces deux mots comme une corde de rappel. Ces souvenirs ont fait ressurgir une autre phrase de ma mémoire, une allégation impénétrable que mon père avait scandée plusieurs fois, telle des balises destinées aux voyageurs que j'allais devenir. Je vis avec un secret que j'emporterai avec moi dans ma tombe. Mon père d'avant faisait toujours en sorte que je l'entende. Il avait chaque fois la même intensité dans le regard, la même sincérité dans la voix, la même fermeté dans son refus de le dévoiler. Alors pourquoi l'évoquer sans aller plus loin ? Longtemps, je crus qu'il jouait avec moi. Dans la chambre 219, je me suis à nouveau posé la question. Ce secret a-t-il vraiment existé ?
Est-ce que ces deux livres dont je viens de citer les titres et de les présenter rapidement, est-ce qu'ils ont été nécessaires à ce troisième ? Est-ce qu'ils ont été des préalables ?
Les deux premiers livres sont évidemment des... Je dirais des besoins. Ça a d'abord été des besoins dans mon travail d'apporter quelque chose qui serait de l'ordre de la contre-narration à un discours dominant sur l'Irak, mais sur le plan vraiment journalistique, avec effectivement quand même un regard assez subjectif sur le pays, sur le rapport que j'ai à l'Irak, sur l'expérience que j'ai eue en tant qu'enfant, adolescent et journaliste. Mais il y avait réellement un cadre journalistique, historique, avec le besoin de rapporter quand même des informations, même si elles me semblaient être quand même différentes de par leur angle qui abordait les sens, qui abordait les couleurs, les odeurs d'un pays qu'on ne connaissait pas. Mais ce roman, je me souviens de Fallujah, est effectivement fictionnel et c'est quelque part aussi le prolongement de tout ce travail et qui aborde des thématiques que je ne pouvais pas explorer dans mon métier de journaliste, comme la relation père-fils, comme la transmission, l'identité, trouver sa place en société, l'amnésie, l'exil, le fait d'être un enfant de réfugié politique, des choses beaucoup plus intimistes et qui rentrent vraiment dans l'introspection. Et c'est des portes que j'ai toujours entrouvertes, mais que je n'ai pas réussi vraiment à enfoncer. Et cette fois-ci, je les ai grandes ouvertes et je me suis lâché dans l'écriture. Et
cette fois-ci, comme vous dites, c'est venu, il y a eu un déclic, le fait que ça arrive aujourd'hui, que ce livre soit publié.
Oui, alors en fait, c'est vrai que je n'ai pas mentionné quelque chose de très important pour moi, c'est que l'Irak tourne évidemment autour de mes parents, donc ma mère, mais notamment aussi autour de mon père qui a toujours eu une histoire très compliquée avec le pays puisqu'il l'a fui, il était opposant politique. Et quelque part, j'avais toujours en tête un jour l'idée d'écrire quelque chose sur lui. Et le déclencheur a été sa disparition. Mon père, je l'ai perdu il y a un peu plus de 3 ans. Et ça a été le déclic pour inscrire sa mémoire dans le papier et transmettre ce que je savais de lui.
En commençant ce livre, vous aviez son architecture, je dirais. Vous saviez à peu près où vous alliez, où vous avez progressé à vue d'écriture.
Pas du tout. J'avais cette espèce de boule au ventre, qui était une forme d'urgence, en fait, de poser quelque chose. Je n'avais pas vraiment de structure. Et puis surtout, je n'avais jamais écrit de roman. Et donc, il a fallu du temps pour accepter l'idée d'enlever ces limites que je me fixais en tant que journaliste. Il a fallu des mois, même, avant la possibilité d'inscrire une phrase. Et une fois que j'ai accepté l'idée d'inventer des choses, de romancer quelques passages, de répondre à des questions auxquelles je n'avais pas de réponse par le roman, j'ai effectivement ensuite établi une structure et j'ai inventé l'amnésie qui m'a permis de, encore une fois je me répète, mais de répondre aux questions auxquelles je n'avais pas de réponse.
Alors ce livre, vous venez de le dire, c'est le roman d'un fils qui découvre son père, Rami, qui est malade. Qui est en fin de vie et qui a perdu la mémoire et qui ne se souvient plus de sa vie d'exil. Mais les choses de la vie qu'il va raconter, qu'est-ce que c'est que ces choses non dites, ces choses qui sont restées dans le silence jusque-là ?
Le vrai défi, c'était d'écrire le silence. Euphrate, évidemment, qui s'inspire beaucoup de moi, pose sans cesse des questions difficiles au père dès l'enfance. Et le père ne sait pas comment répondre, notamment parce que les questions sont des questions existentielles et aussi parce que ce réfugié politique, Rami, porte un bagage très lourd qui sera au fur et à mesure déballé au fil du roman. Et ces choses-là planaient dans le foyer, planaient durant des années. Jusqu'à un moment donné presque être oublié et puis l'amnésie justement réveille ce questionnement et c'est une opportunité honteuse pour le fils de saisir l'amnésie et d'essayer à la fois de restituer l'histoire du père et en même temps de poser les questions auxquelles il n'a jamais eu de réponse, encore une fois.
Alors donc, oui, Euphrate, Euphrate, on fait tous la liaison, c'est le même fleuve, mais vous dites c'est deux personnages différents. Qu'est-ce qu'il vous permet, ce pas de côté ?
Et justement, il me permet d'inventer, il me permet de prendre un peu de distance, mais pas trop. Je ne voulais pas aller trop loin. Ouais. Effectivement, Euphrate, c'est Furat en arabe, Euphrate. Rami, c'est l'anagramme d'Amir, qui était le prénom de mon père. C'était également son pseudo lorsqu'il était militant trotskiste. Donc, c'est un pas de côté, mais je ne vais pas trop loin non plus. Voilà.
Qu'est-ce qu'il permet, mais aussi qu'est-ce qu'il empêche, ce pas de côté ? Est-ce qu'il empêche peut-être un trop-plein d'émotions ?
Bah, de toute façon, au fur et à mesure des années, là, pour parler de la relation que j'avais avec mon père, il y avait une forme de pudeur qui était là. On se disait les choses, mais de manière indirecte. Donc j'ai effectivement peut-être inconsciemment gardé cette pudeur-là. Et en même temps, le fait de... C'est pas tout à fait moi, Euphrate. Et Rami n'est pas tout à fait lui. Donc ça m'a permis également d'aller plus loin aussi dans l'émotion. Il y a certains passages qui vont, je pense, dans l'introspection, de manière beaucoup plus poussée. D'autres qui sont plus des observations. Et voilà, c'est un rythme que j'ai trouvé pour... à la fois remplir ce vide, ce silence, cette absence, et rendre hommage et dire ce que je n'ai pas pu dire à ce père à travers la voix d'Euphrate.
Alors qui est-il, ce Rami, qui est différent de Amir, votre vrai père ? Qui est-il ? D'où vient-il ? Si vous deviez nous le présenter rapidement.
Ben, c'est lui et c'est pas lui. C'est l'homme que je n'ai pas connu puisque je n'étais pas né. Je décris le Rami des années 50 jusqu'aux années 60. Donc il a... Et je parle même plus loin, je parle de son enfance en fait.
Il est né en 44.
Il est né en 44 à Fallujah. Il a très rapidement perdu sa mère, il avait l'âge de 7-8 ans. Et très vite, là, c'est presque de l'ordre du conte où la marâtre va le martyriser. Il va subir une forme de maltraitance pendant des années.
Samia.
La belle-mère s'appelle Samia. Son père à lui a abandonné, c'est comme ça qu'il le décrit, il n'est plus là, il n'est que l'ombre de lui-même et donc il va se retrouver face à cette marâtre et ensuite très vite, par encore une fois le hasard de la vie, il se retrouve embarqué dans la révolution de 58, le 14 juillet 58, qui voit naître la République d'Irak et qui signe la fin de la monarchie. Rami a 14 ans à ce moment-là, il se retrouve... malgré lui, révolutionnaire, il est embarqué dans ce tourbillon politique qui va agiter l'Irak pendant quelques années, où un espace avec des courants contradictoires politiques vont se rencontrer et débattre, jusqu'à ce que le pays se referme à nouveau par un coup d'État du parti Baas. Et Rami va militer secrètement et, comme beaucoup d'Irakiens, va être arrêté par les services de Saddam Hussein et jeté en prison. Dans une prison qui s'appelle Qasr al-Nihaye, qui veut dire le château de la fin, F-I-N, dont on ne sort pas habituellement. Lui en sort miraculeusement, et aussi parce qu'il était un militant très jeune, qu'il n'était pas menaçant pour le régime. Et ensuite, il fuit. Et donc, ce Rami qui fuit l'Irak et qui arrive en France à 28 ans. Et il fuit en espérant pouvoir réaliser ses rêves. Et dès son arrivée, ses rêves sont brisés, oui, parce qu'on lui demande de collaborer avec les services français, sont passés le rattrape. Et alors qu'il n'a pas collaboré en Irak, on lui demande de collaborer en France, il refuse et abandonne ses rêves.
Et alors, vous l'avez dit en introduction, vous avez donné à cet homme ce mutisme qui le frappe, cette amnésie qui le frappe. Comment s'est née cette idée de l'amnésie ? Qui n'est pas réel, vous l'avez dit. Bon.
Cette amnésie n'est pas réelle, mais ce qui est réel, c'est la fin de vie de mon père, qui était dans cette chambre 219 que je n'ai pas inventée, et qui était là pour un cancer en phase terminale. Et moi, j'étais là tous les jours avec lui. Et au cours de nos discussions, je me suis rendu compte qu'il avait de plus en plus de trous de mémoire. Je ne savais pas comment situer ça parce qu'il n'était pas amnésique, mais il perdait un peu la mémoire. Et quand il a disparu et que j'ai essayé de trouver une manière de le raconter le plus entièrement possible, eh ben, j'ai accentué ce trou de mémoire pour en faire une amnésie partielle. Et c'est pour ça que Frat se rend compte très vite que Rami a oublié la moitié de sa vie Et donc s'instaure une joute verbale, une joute de souvenirs où chacun va recomposer l'existence de l'autre.
Préalablement, c'est déjà, il y a l'amnésie, mais préalablement, c'est quelqu'un de plutôt taiseux. C'est pas un bavard. C'est quelqu'un qui a beaucoup retenu les informations, beaucoup retenu sa vie en quelque sorte.
Oui, il est de cette génération d'exilés, mais ça concerne aussi les enfants d'immigrés ou les immigrés eux-mêmes, traditionnellement en France d'Afrique du Nord ou d'ailleurs, et qui ne veulent pas parler, qui ne veulent pas aussi souvent accabler leurs enfants avec peut-être leur traumatisme ou leur histoire difficile. Et c'est le cas de Rami qui, lui en plus, non seulement après avoir une enfance difficile, se retrouve à l'âge adulte en prison, torturé. Rami ne veut pas accabler son enfant, ses enfants.
Si on rapproche deux adjectifs que vous avez apposés sur votre père et sur le pays, c'est un homme silencieux ou un père silencieux, enfin ce père est silencieux, sur le pays des murmures. Ça fait beaucoup de silence.
Oui, c'est exactement ça. C'est écrire le silence d'abord parce que c'est un homme taiseux et que le fils combat ce silence, mais aussi parce que l'Irak, tel qu'il est décrit par Rami, est une dictature. Et comme dans toute dictature, on doit murmurer et ne pas parler, ne pas exprimer ses idées. Ne pas citer certains noms. C'est le cas effectivement de Saddam Hussein à l'époque. Et cette paranoïa légitime poursuit en fait Rami jusqu'en France, où dans le foyer, chez la plupart des Irakiens, si on prononçait le nom de Saddam Hussein, c'était à voix basse. Et lorsque Frat va se rendre en Irak pour la première fois, à l'âge de 9 ans, Rami va lui dire « Surtout, ne parle pas là-bas, il faut murmurer, c'est la société du murmure. »
Dans l'extrait que l'on vient de lire, le père parle de la valise du voyageur qui est trop lourde parfois, il faut l'alléger. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, cette valise, et qu'est-ce que c'est que ce « trop lourd » ?
Bah d'abord, la valise visible a réellement existé. J'ai grandi avec une valise à code, qui était la valise de mon père, une petite mallette en fait, que j'adorais ouvrir, fouiller. J'en ressortais parfois des morceaux de journaux en arabe, des cartes, tout un tas de choses. Et en même temps, la valise est une thématique ou est un objet très utilisé en littérature, notamment chez les exilés. Elle symbolise le voyage, elle symbolise beaucoup de choses, la fuite. J'ai en tête un livre que j'avais lu quand j'étais adolescent qui s'appelle La Valise, qui décrivait le parcours d'un immigré russe qui allait aux États-Unis. À l'époque, sous l'ère soviétique, on leur autorisait seulement 3 valises. Et ce personnage, dans ce roman, se demande si sa vie va tenir dans 3 valises, et finalement, elle tient dans une valise. Et c'est le cas de Rami, qui arrive en France sans la langue, et avec pour seul bagage, cette petite mallette qui contient peut-être quelques souvenirs. Alors j'ai évidemment inventé des choses là-dedans, j'ai fantasmé des choses, et cette valise est très importante, et je l'ai encore avec moi. Elle m'a beaucoup inspiré, en fait, cette valise.
Qui suit le passage, le père dit ceci: je vis avec un secret que j'emporterai avec moi. Ce secret, on va pas dévoiler la fin du livre, mais il y a aussi cette présence permanente, en plus du murmure et du silence, du secret, des choses que l'on ne peut pas dire, vous le dites dès l'entrée, on parle des choses qui sont non dites. Le secret est permanent.
Oui, le secret fait partie de ce silence. Le secret fait partie des choses qu'on ne dit pas. Là, pour le coup, je n'ai pas réellement inventé l'idée du secret. Mon père constamment, et je pensais que parfois c'était pour presque exciter ma curiosité et ma créativité, me parlait d'un secret. Ma mère peut le confirmer. Enfant, adolescent, il en parlait, il entr'ouvrait la porte encore une fois. Il entr'ouvrait la porte, mais sans jamais rien dire. Et ce secret, pour moi, s'inscrit aussi dans cette histoire du silence.
Alors la maman qui peut témoigner, c'est facile d'écrire avec elle à côté, avec elle qui pourra vous lire, qui pourra regarder ce que vous avez dit, ce que vous n'avez pas dit.
Alors j'écrivais seul, parce qu'avec ma mère, on parle beaucoup, donc c'est compliqué d'écrire. Mais ma mère, je lui ai posé des centaines de questions. de conversations, de bribes de conversations que j'aurais ratées, des choses comme ça. Et c'est pour ça que je disais qu'elle m'a beaucoup inspiré aussi, parce qu'elle représente l'Irak que je décris.
Et elle est moins taiseuse que le papa.
Oui, moins taiseuse. Ouais. Très généreuse. Hein.
Alors, il y a d'autres personnages dans le roman que j'aimerais bien... vous nous disiez deux ou trois mots. Il y a Atem, le copain d'enfance. Qui est-il, cet Atem ? Atem, départ, le petit gamin.
Atem, le petit gamin et l'adulte qu'il deviendra. Mmh. Atem, je l'ai inventé, mais je l'ai recomposé avec différents amis de mon père que j'ai pu côtoyer. Il y en a un ici d'ailleurs, ici Amo Athab, qui est là, qui est un ami de mon père depuis toujours et qui faisait partie de cette... je ne sais même pas si on peut l'appeler une communauté, mais il y avait tellement peu d'Irakiens dans les années 70 en France. Et mon père m'emmenait très souvent dans les cafés. Je parle souvent des cafés dans ce livre, et en l'occurrence un café qui est à Paris. Donc il y a des traits de caractère, il y a des traits physiques que j'ai récupérés à droite à gauche de personnes que j'ai côtoyées. Et puis il y a la thématique importante, cette dualité entre Rami et Hatem, et puis le personnage de Frat et de son ami Kader. Il y a l'amitié qui est très importante dans toute histoire, mais là, en l'occurrence, ça a un impact dans la vie de Rami.
Et il y a le jeu initiatique que vous racontez, là, le fleuve, la pastèque et les enfants. Ça donne lieu au bandeau de couverture du livre. Au départ, on regarde ce bandeau, on se dit qu'est-ce que ça vient faire dans cette histoire, et on le comprend très vite. Dites-nous un petit peu de quoi il s'agit.
Bah, cette photo, elle représente beaucoup de choses. D'abord, c'est le pont vert de Fallujah que je mentionne régulièrement et qui est ce pont construit par les Britanniques à Fallujah, d'où sautent des enfants qui, durant l'été, n'ont rien d'autre à faire. Et effectivement... s'entraînent à passer ce rite de passage à l'âge adulte en plongeant dans cette frate qui est tumultueux, qui comporte des tourbillons, des maelstroms, qui est difficile à apprivoiser, et en plus doivent enterrer des pastèques sous la vase du fleuve pour les retrouver rafraîchis le soir. Donc c'est à la fois quelque chose de pratique et en même temps un rite de passage à l'âge adulte que Rami va franchir. Et puis, toujours dans cette idée de dualité, il y a... un autre rite de passage à l'âge adulte pour Euphrate en France et qui renvoie à l'histoire de Rami. Il y a un jeu comme ça de miroirs déformants, de miroirs ressemblants entre le père et le fils.
Alors on va revenir avec Euphrate ou avec Euphrate.
Je retrouvais ma classe de CM1 avec une semaine de retard. Ma sœur et moi avions raté quelques jours d'école. « Ah, le revenant !» s'exclama Kader en me voyant. Nous avions disparu, en effet. Nous étions partis en Irak du jour au lendemain. Il y avait urgence. La paix risquait de ne pas durer. Dans ma nouvelle classe, les élèves avaient toutes sortes de pères. Un conducteur de train, un médecin, un plombier, un ingénieur, un informaticien, un entraîneur de football, un expert comptable, un policier, un garagiste. Le mien n'avait pas grand-chose à voir avec cette normalité. Mais il travaillait quand même. Face à la fiche de renseignements à remplir, je m'en étais voulu d'avoir menti les années passées. Au début de ma scolarité, j'avais préféré me fondre dans le décor. Dès que je franchissais la grille de l'école, je cherchais à cacher l'anormalité de ma famille en me réfugiant dans l'affabulation. Comment écrire « vendeur de cartes postales sur le parvis de Notre-Dame » ? Qui aurait compris que des policiers en civil l'arrêtaient régulièrement ? Alors je lui ai inventé des métiers à partir de ce que j'entendais de lui à la maison. Mon père avait étudié la sociologie, fait de la politique, voyagé dans différents pays. Et je lui avais fabriqué différents profils grâce aux diverses bribes de conversations entendues. En CP, quand la maîtresse, Madame Bruchon, m'avait posé la question, j'avais répondu « politicien » et avais obtenu un sourire en retour. Au CE1, j'avais opté pour « sociologue ». Au CE2, commerçant dans l'import-export. L'école était devenue un refuge où je pouvais mentir et me sentir normale, plus proche des autres. Oui, on avait une voiture, une Peugeot ou une Mercedes, ça dépendait des commissions que gagnait mon père. Évidemment que nous partions en vacances sur la Côte d'Azur. Bien sûr que nous prenions l'avion très souvent. Mon père m'emmenait-il au bureau ? Non, mais il voyage souvent, vous savez. Cette année-là, je choisis de dire la vérité. J'écrivis, noir sur blanc, vendeur de cartes postales. Je faillis presque ajouter « père se sacrifiant pour sa famille ». Métier honorable, malgré tout. Aurait pu faire mieux, certes. Longues études inachevées. A entamé des études de sociologie à la faculté de Poitiers, abandonnée à cause de la vie de famille et de son poids. Je n'ai pas osé. Qui m'aurait cru ? Ne se serait-on pas moqué de moi ? Je me sentis soulagée. Soulagée d'avoir enfin révélé un peu de vérité. Madame Girard me demanda si j'acceptais de raconter à tout le monde ce que j'avais vu en Irak. Je n'eus pas le temps de répondre que Kader acquiesçait pour moi. « Vas-y, raconte-nous ton pays chelou, le revenant !» Ricanement dans la salle de classe. Alors je m'exécutais. Qu'est-ce que mes camarades connaissaient de ce pays ? Rien. Et ce rien était tout pour moi. Ce rien, c'était mes origines, mon histoire, mon arbre généalogique. Ce rien, c'était cette rencontre avec la ville de mon père. Fallujah, bordée par le fleuve Euphrate, dont j'avais hérité le nom. Alors je commençais à raconter cette ville propre, verte, parfois poussiéreuse, certes moins illustre que Bagdad, mais malgré tout charmante. À Fallujah, j'avais rencontré ceux dont j'avais tant imaginé les vies. Beaucoup d'oncles et de tantes, bien plus de cousins et de cousines. Moi qui me sentais si seule en France, j'avais été submergée par ces nouveaux visages. J'avais enfin une grande famille.
Et vous, alors cette fois, je vais parler à Ferhat et non pas à Euphrate. Vous et l'Irak de votre enfance, c'était quoi ? C'était la radio, mais c'était un peu la nourriture, la musique ? Il y avait d'autres signes irakiens dans la...
C'était d'abord la nourriture, la langue, ouais. et les discussions entre mes parents. La radio, effectivement, le jingle, Radio Orient 94.3. Idaat El Shark fi Paris, et uniquement des nouvelles qui nous tombaient dessus comme ça. Moi, je suis né donc en 80, au moment du déclenchement de la guerre entre l'Iran et l'Irak. Et pour moi, l'Irak, c'était à la fois la guerre, donc des mots à ne pas prononcer, un tabou que même très jeune enfant, j'avais perçu. Les enfants absorbent tout et comprennent les choses, même si les mots ne sont pas prononcés. Et donc pour moi, l'Irak, c'était d'abord ça. Et donc tout un tas de questions jusqu'à ce que une opportunité s'offre à nous, qui était la trêve, la paix entre l'Iran et l'Irak, et cette possibilité, cette petite fenêtre pour nous envoyer ma mère, ma sœur et moi en Irak, sans mon père parce qu'il était opposant politique, il ne savait pas s'il pouvait rentrer en Irak. Et là, c'est l'envers du décor, c'est tout l'opposé des clichés que j'avais sur le pays. C'est à la fois un émerveillement et une prise de conscience de cette société du murmure aussi, très vite. Donc, par ces mots prononcés. Ma petite sœur, qui était encore plus jeune que moi, donc, pensait que c'était un jeu et qu'on pouvait prononcer finalement le nom de Saddam Hussein. Elle le scande dans la rue. Et là, la vie s'arrête autour de nous. On nous saute dessus, on nous jette dans une voiture, en direction une maison familiale. Et là, même à l'âge de 9 ans, je me rends compte que ce n'est pas normal. Je me rends compte que c'est un pays différent.
Un pays différent aussi à l'école, parce que à l'école, il y a d'autres émigrés, mais vous aimeriez bien être finalement plutôt algérien ou marocain, parce que c'est dans la norme, quoi.
Oui, moi j'ai grandi alors avec vraiment de tout, mais effectivement, entre Paris et la banlieue, dans des quartiers populaires, où j'ai grandi avec énormément d'amis d'origine algérienne, marocaine, tunisienne et d'ailleurs. Et c'était mes référents, en fait. Je n'avais pas d'Irakiens autour de moi. Donc je voulais leur ressembler. Et en même temps, j'avais conscience que je ne m'appelais ni Karim pour caricaturer, ou François pour mes amis français de souche, mais Ferhat, c'était bizarre pour mes amis. Et constamment, cette conscience d'être donc parmi les minorités, mais en marge, encore plus en marge, encore plus invisibilisé, parce qu'on ne nous connaissait pas. Et parce que l'Irak n'a pas de passé colonial avec la France, n'est pas inscrit dans le débat public, en fait. Et ça, c'était difficile pour moi.
Et qui plus est, si on le connaît pour de mauvaises raisons.
Et en plus, soit on le connaît pour des mauvaises raisons, soit on caricature son pays d'origine avec des comparaisons que je trouve insupportables. Toi, t'es un vrai arabe, ou des réflexions qui ne me parlaient pas. Moi, je voulais juste être comme les autres. Cet enfant, et puis moi-même dans ma vie, j'avais une obsession pour la normalité. Et je nous trouvais toujours anormaux.
Et Fallujah, votre Fallujah et la Fallujah de votre père, la différence, elle se situe où? Comment est-elle?
Alors d'abord, le Fallujah de mon père, je ne le connaissais pas. Mmh. C'était encore une fois, faisait partie de ce silence. Le Fallujah qu'on découvre, ma sœur et moi, en 89, est la Normandie dont je rêvais. Donc, quand tous mes amis allaient en Ardèche ou en Normandie et que nous on allait nulle part parce qu'on n'avait personne, Fallujah ressemblait à la province, le fleuve, les jardins, le calme, la campagne, quoi. Et pour les Bagdadis, c'était une ville de week-end. Donc c'est d'abord ça, une ville totalement méconnue, également en marge. C'est Fallujah est presque un personnage aussi du livre. C'est une ville silencieuse, en marge, paradoxale. Et puis, pour faire un bond en avant gigantesque, quand l'invasion américaine a lieu en 2003 de l'Irak, Fallujah devient célèbre pour d'autres raisons. Tristement célèbre pour sa résistance à l'occupation américaine et puis à sa destruction ensuite. On a comparé la bataille de Fallujah en 2004 à la bataille de Hue au Vietnam ou encore à Stalingrad.
Ce que vous aviez raconté, entre autres, dans votre roman graphique.
Et donc je parle de campagne perdue, c'est à la fois ma campagne, ma Normandie et puis autre chose.
Le Fallujah du père, alors certes, elle est maintenue dans le silence, mais vous êtes obligé de la reconstituer d'une certaine façon. Là, le journaliste, il intervient à côté du romancier.
Oui, il intervient dans la méthode. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai dû effectivement me documenter,
enquêter,
poser des questions à ma mère et puis à d'autres membres de ma famille sur le Fallujah de cette époque. Même si ma mère a rapidement quitté Fallujah pour Bagdad, elle aime bien que je le rappelle. Mais je me suis énormément documenté. J'ai évidemment lu aussi des ouvrages sur l'Irak, beaucoup plus en anglais parce que c'est difficile de trouver des choses en français sur Fallujah. Pour reconstituer un cadre, et puis j'ai aussi imaginé et fantasmé encore une fois, et puis finalement je sais que en 89 le Fallujah que j'ai vu n'était pas si différent, il était moins peuplé durant les années 50, mais pas si différent, donc ça n'a pas été très compliqué non plus.
Dans votre livre vous marquez le territoire romanesque de traces linguistiques arabes. Ça signifie quoi, cette présence de mots, du mot cauchemar, du mot génie qui est mentionné en arabe, par exemple?
C'est aussi inscrire l'Irak dans le papier, dans les mots. C'est rendre hommage pas seulement donc à un homme et à une femme, mais à une langue, à un dialecte particulier aussi. Je voulais même parfois rentrer un peu plus dans le détail de l'héritage de différentes périodes d'histoire dans la langue irakienne. Il y a des mots que les Irakiens eux-mêmes prononcent sans savoir que ces mots ont des origines peut-être britanniques durant l'occupation, turques durant l'Empire ottoman ou encore sumériens. Donc je ne suis pas allé trop loin là-dessus, mais ça me tenait à cœur d'en glisser quelques-uns.
La puissance des mots ou de la littérature dans le parfum d'Irak, il y a un passage où il y a quelqu'un qui regarde le ciel, voit des oies et il y a ce petit message juste derrière, s'accrocher à la poésie pour survivre. C'est aussi présent dans ce livre. Les mots, la poésie, la littérature, c'est un adjuvant nécessaire pour vivre, pour survivre.
Oui, c'est effectivement ça. Et puis surtout, ce n'est pas propre à la culture irakienne, mais en Irak, la culture de la poésie est très forte, très présente. Le dialecte irakien est déjà très, très poétique. Encore une fois, ce n'est pas propre qu'à l'Irak, mais pour dire comment ça va en arabe, en Irak, on dit « shlanek », qui littéralement veut dire « de quelle couleur es-tu ». Et c'est quelque chose déjà que je trouve assez poétique. Donc c'est présent dans la culture. Moi, j'ai pas connu ça quand je suis allé en Irak adulte, mais il y avait comme sport national des combats de rimes. Des joutes de verbales, et chacun s'envoyait des rimes. Enfin, il y a quelque chose de très inscrit dans la culture irakienne.
Permet de déjouer le chaos sur place, mais ça permet aussi de déjouer l'exil.
Aussi, ça permet de faire passer des messages par le biais de la poésie, par le biais de phrases subliminales. Ça permet aussi de cacher des discours. C'est qu'en fait, entre Irakiens, il y a des manières de parler qui sont vraiment codées. Et si on a, je dirais même certains Irakiens ne comprendraient pas, s'ils ne sont pas de la même génération, s'ils ne sont pas du même bord politique ou de la même région. Les mots sont des passerelles aussi pour surdire des choses. Ces passerelles-là sont devenues des ponts, notamment durant ces périodes de dictature où communiquer entre citoyens irakiens était déjà très dangereux. Donc il fallait utiliser l'art de la poésie pour faire passer certains messages.
Chez vous, la poésie était présente à la maison. Il y avait...
Mon père était un grand, grand poète. Il en écrivait, il en lisait. Il m'a mis à la lecture très tôt à travers des contes, mais aussi des poèmes. Alors français, en l'occurrence. Lui, c'était Paul Éluard, entre autres. Et oui, c'était très présent, très présent.
Vous avez parlé en début de la mort de votre père, que l'on devine prochaine dès les premières pages. Ça permet des instants qui ont été jusque-là impossibles, c'est-à-dire que l'imminence de la mort enlève une certaine barrière de part et d'autre. On dit des choses qu'on n'aurait pas dites.
Alors, ça n'a pas été mon cas. Mmh. En fait, moi, quand mon père, quand ce cancer lui est tombé dessus, on ne veut jamais y croire. On est dans le déni, on veut aussi être protecteur et ne pas aller sur des discussions qui envisagent, ou je dirais même qui caressent cette idée de la mort. Donc ce roman est aussi une réponse à une conversation, enfin une forme de conversation que j'aurais voulu avoir avec mon père, mais que je n'ai jamais osé imaginer lorsqu'il était vivant.
Si je dis que ce qui n'a pas été dit est écrit. Je résume un peu le...
Oui. Oui, vous résumez bien et c'est réellement... Il n'y a pas que ça, mais je veux dire, la démarche naît de ça. D'abord, l'hommage à son parcours et à travers lui, au parcours de tous les exilés qui, j'espère, se reconnaîtront dans cette histoire. Il y a peut-être des exilés dans la salle ou des enfants d'exilés. Mais aussi, effectivement, écrire les choses qui n'ont pas été dites.
Réhabiliter son itinéraire aussi, sa droiture, c'est très important. Enfin, du personnage, et j'imagine du père, tout simplement.
Oui, c'est très important. Alors, du père, et aussi, je pense, c'est commun aux exilés qui fuient donc en général un pays sans rien. Ils n'ont uniquement comme bagage, encore une fois, que leur expérience, leur culture. Et du coup, quand on n'a rien, très souvent, on s'accroche à des principes très forts. Et mon père avait ces grands principes qu'il m'a transmis, je pense, qui sont une forme d'intégrité, d'honnêteté, j'espère l'être, mais j'avais ces principes-là qui rôdaient autour de moi depuis mon enfance. Et j'ai voulu accentuer ça aussi dans ce roman en montrant à quel point il était radical, dans le bon sens du terme, dans ces grands principes-là, de l'honnêteté, de l'intégrité, de la politesse, de toutes ces valeurs en fait qu'il a pu me transmettre, puisqu'il n'avait entre guillemets rien de matériel à me proposer.
Ce qui est très important dans vos trois livres, dans le troisième peut-être dissimulé par le romanesque mais très présent en revanche dans les deux précédents, c'est l'histoire de Rami, c'est aussi l'histoire de l'Irak, c'est de dire sinon la vérité, du moins de dire la réalité, de nous la montrer à nous lecteurs qui pouvons découvrir ce pays, qui pouvons découvrir Fallujah. Il y a cette volonté là chez vous?
Oui, à un moment donné j'ai même pensé à faire de l'Irak un personnage. Mais finalement, le personnage de l'Irak, c'est Rami. Ah oui. C'est, il y a à la fois, alors ça c'est certainement un réflexe de journaliste que j'ai, c'est qu'en toile de fond, il y a quand même une partie de la grande histoire de l'Irak, une forme de chronologie, une forme de travail aussi sur des périodes, encore une fois, totalement méconnues, que moi-même je ne connaissais pas, les années 50, 60. Et puis aussi... lier ou relier l'Irak que j'ai connu à mon père, l'Irak de 89, et montrer comment, quelque part, et ça a été une réalité pour moi, mon père que j'ai perdu était également cet Irak que je perdais, cet Irak rêvé, idéalisé, avec une lucidité sur la dictature, mais cet Irak que je voyais m'éloigner de moi au fur et à mesure que je grandissais. Et c'est pour ça qu'il y a des phrases prononcées par le père qui sont... très clair sur cet Irak qui se termine. L'Irak, c'est fini, il le dit très souvent. Et effectivement, les deux sont corrélés.
L'Irak, le pays des parents, vous a en quelque sorte rattrapé, on peut dire ça comme ça. Est-ce que vous n'êtes pas journaliste grâce à l'Irak ou à cause de l'Irak ?
Si, j'en suis persuadé, mais ce n'était pas du tout conscientisé. C'était aussi la démarche du Parfum d'Irak où j'évoque à peine le sujet, mais l'idée d'aller en Irak, c'était déjà exceptionnel, même pour des enfants d'Irakiens. J'avais conscience de cette chance-là et donc le besoin de raconter, de témoigner de cet Irak-là auprès de mes camarades et même de mes professeurs, jusqu'à aller à faire des exposés. Et je ne savais pas que c'était un métier, en fait, que les journalistes faisaient ça. Et j'ai découvert ça bien plus tard. Et avec le recul, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Je suis devenu journaliste grâce à mes parents, grâce à l'Irak, grâce à ces voyages que j'ai eu la chance de pouvoir raconter. C'est une certitude.
Fallujah, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Comment est-elle ? Comment survit-elle ?
Brièvement, il faut juste raconter Fallujah de 2003. Fallujah était encore cette ville, on va dire, paisible et une ville qui était une forme de fief militaire. Tous mes oncles paternels étaient dans l'armée irakienne, qu'on retrouve d'ailleurs dans les autres ouvrages. Très vite, les Irakiens comprennent que la libération est finalement une occupation. Et à Fallujah, on refuse l'occupation de la ville, déjà. Et donc, très vite, j'essaie de faire court, mais très vite, les habitants s'organisent, il y a des groupes qui se forment, et les habitants de Fallujah luttent contre l'armée américaine jusqu'à ces deux grandes batailles de 2004 qui rasent la ville. Donc la ville est une ville martyre, une ville qui se reconstruit. Et la tragédie se poursuit lorsque le groupe État islamique occupe Fallujah en 2014. Donc avant Mossoul, bien avant Mossoul et Ramadi, Fallujah est la première ville à être occupée par ce groupe qui va encore être bombardé. Et lorsque l'État islamique va être chassé du territoire, Fallujah va difficilement se relever. Et là, pour répondre à votre question concrètement, aujourd'hui, la ville se reconstruit tant bien que mal, mais veut à tout prix vivre en autarcie, ne veut plus rien avoir avec le gouvernement de Bagdad. Et pour des raisons que j'évoquais avant, mais aussi pour des raisons politiques, c'est une ville qui est une ville jugée, une ville paria par Bagdad. Donc les espoirs sont minces. La ville est encerclée par des milices. Et moi, lorsque je discute avec des amis qui sont encore là-bas, leur situation est très difficile, tant sur le plan économique, social. Il y a très peu d'espoir d'avenir meilleur à Fallujah, malheureusement.
Votre roman parle complètement de l'Irak, complètement de Fallujah, mais en même temps, on ne peut pas ne pas penser à d'autres Iraks et d'autres Fallujah. On est en Syrie et à Alep, on est au Liban et à Beyrouth, on est peut-être à l'Ukraine et à Bakhmout aujourd'hui. Il y a des parallèles comme ça, on pense à d'autres situations. C'est-à-dire que votre roman a une dimension universelle.
Je l'espère, mais c'est vrai que déjà juste pour décrire Fallujah, on parle de Stalingrad ou de Hue au Vietnam. Donc effectivement, l'histoire se répète malheureusement. Les leçons ne sont pas tirées. Là, on arrive dans deux jours à l'anniversaire des 20 ans de la guerre, de l'invasion américaine de l'Irak. C'est comme ça qu'il faut l'appeler, je pense. C'est ensuite devenu autre chose. Et on parle encore. Pour moi, il y a aussi une forme d'amnésie collective sur ce qui s'est réellement passé. On a tendance à oublier. Et on en revient justement à ce que vous disiez, c'est que chaque défaite de l'histoire rappelle une défaite précédente. Et Bakhmout en Ukraine m'a effectivement beaucoup fait penser à Fallujah.
Ça donne une dimension, ce que l'on vient d'évoquer, donne une dimension universelle à votre travail. Ce qui en donne également une autre, c'est la relation père-fils, parce que ça, c'est aussi universel. Et le fait aussi de parler d'être un fils d'exilé. Ça aussi, je pense que ça a un écho auprès de tout un tas de lecteurs potentiels qui ont vécu une histoire sinon comparable, du moins parallèle.
Oui, c'était aussi la démarche. C'est que effectivement, je parle d'une histoire que je connais, mais l'idée est vraiment que cette histoire soit le plus universelle possible par des parcours que j'ai connus aussi autour de moi. J'ai très souvent des retours d'amis ou de gens que je connais pas qui sont du Chili ou du Cambodge ou d'ailleurs qui parfois ont vécu exactement la même chose et très souvent cette histoire de silence est là. C'est quelque chose qui est partagé dans le foyer. Et puis dans toute histoire, je pense que la quête de soi est aussi la quête de l'autre. Il y a soi et l'altérité et ça, d'ailleurs, enfant d'exilé ou pas, les thématiques reviennent et sont là. Donc la transmission, la relation père-fils ou mère-fille, peu importe. Mais l'identité ou l'absence de trouver sa place autour de soi, dans la société. Tout ça sont des thématiques qui, j'espère, peuvent parler à tout le monde. Et qu'on n'est pas forcé de s'intéresser à l'Irak pour avoir ces repères-là.
Si on pénètre dans votre lieu de travail, dans votre lieu d'écriture, ça se passe comment ? Écrire ces trois livres qui sont très différents sur la fin, j'imagine qu'on les écrit de façon aussi totalement différente. Les 1001 tweets, je les imagine pouvoir être écrits dans des lieux très différents pendant, vous avez 30 secondes. Là, le roman, ça nécessite un temps long d'écriture. La prédisposition de l'écrivain est différente, non ?
Totalement différente pour les trois. Ouais. Le Parfum d'Irak, c'est d'abord un texte. Un texte qui est né vraiment d'une colère, de voir le traitement de l'Irak. Sur le dispositif, il n'y en avait pas. Je le dis crûment, mais j'ai vraiment vomi quelque chose. J'avais besoin d'apporter une contre-narration à ce que j'entendais. Et donc ça s'est fait dans un laps de temps très court, dans un rituel qui était le même. C'était tous les soirs, j'avais besoin de me rappeler de choses. Donc la seule ligne que je m'étais imposée, c'était la chronologie de mes souvenirs. Mais sinon, c'était basé uniquement sur des souvenirs. Pour la BD reportage, c'est un travail à deux, donc avec un illustrateur qui est auteur, et moi je ne sais pas faire de BD, donc il y avait un vrai travail presque journalistique. Et sur le roman, alors là c'était c'est long, j'ai été surtout très bien encadré, mais j'ai écrit dans les cafés, j'ai écrit dans le brouhaha, j'ai écrit dans le silence. Il y a vraiment un roman, en tout cas ce roman là pour moi s'écrit avec une boule au ventre, et j'ai pas d'autre outils ou palettes pour écrire. J'avais pas de méthode d'écriture ou quoi que ce soit. J'avais besoin de me mettre dans un état en fonction des chapitres, en fonction des émotions que j'avais. Parfois, justement, être dans le bruit des cafés pour décrire des scènes de café ou être dans l'isolement total pour écrire quelque chose de très intime.
Il y a beaucoup de réécriture. Vous revenez beaucoup. Le livre, il est écrit à peu près dans l'ordre où nous le lisons.
Non, pas du tout. Pas du tout. Il est écrit... C'est pour ça que je précisais vraiment que j'ai pas de... Alors j'ai essayé, hein, par contre. J'ai essayé de m'imposer un cadre, d'avoir une forme de structure que j'ai construite et déconstruite. Enfin, ça n'a jamais vraiment marché. Et donc j'ai accepté d'écouter plutôt mon instinct et d'écrire ce que j'avais envie d'écrire à ce moment-là, ou ce que j'étais prêt à écrire. Et ensuite, il y a énormément de recompositions. Et pour répondre à votre question, je suis très rarement satisfait de ce que j'écris. Donc je reprends, je réécris, je relis, jusqu'à un moment donné, accepter d'arrêter ça. Parce que sinon, je ne m'arrête jamais.
Il y avait des zones où vous aviez besoin d'aller faire une enquête, rechercher des choses. Vous dites, tiens, là, il manque un maillon, il y a quelque chose qui me... Je voudrais saisir cet instant, je voudrais parler de tel ou tel aspect, je vais le chercher parce qu'il m'est nécessaire.
Oui, c'est absolument nécessaire que ce soit... Alors, je suis un vrai pèlerin des lieux, je suis un vrai nostalgique des lieux. Et donc, le café que je cite, qui s'appelle le Stop Cluny, qui se trouve à Saint-Michel, mais qui malheureusement a fermé définitivement il y a quelques semaines, je m'en suis rendu compte, au cours d'un éventuel pèlerinage dans ce café, j'ai besoin de retrouver des lieux pour... mais je pense que c'est commun, je pense à tous les auteurs et autrices, de s'inspirer d'un endroit. Et puis aussi dans des considérations beaucoup plus précises sur des dialogues, j'ai besoin d'être confronté à des gens qui auraient pu ressembler à des amis de mon père, par exemple, ou à des situations similaires. Donc il y a aussi une démarche, je ne l'appellerai pas journalistique, mais une démarche de documentation, de réappropriation de certaines situations.
Le père disait au début du roman, « Sache qu'on n'est pas, on devient. » Vous en êtes où ?
Je pense que vous avez la réponse dans votre question. On devient. On devient, donc à nous de décider quand est-ce qu'on devient, mais je pense qu'on devient constamment. Je pense que derrière ça, en l'occurrence, ce n'est pas une phrase que mon père m'avait dite. Il m'avait dit beaucoup de choses hein, de cet ordre-là, mais c'est poursuivre un peu cette métaphore de la valise qui en fait est un questionnement permanent. Alors, je veux dire, toute sa vie, pour revenir à la valise invisible, on devrait, c'est pas toujours le cas, la vider des mauvais souvenirs, des mauvaises expériences et garder que le meilleur. Et ça paraît un peu simpliste comme ça, mais c'est quelque chose de permanent, c'est le mouvement aussi, le mouvement perpétuel de la vie.
Quand on a écrit ces trois livres, et singulièrement ce troisième, il y a toute une part de choses qui sont évacuées, on passe à autre chose ou on creuse?
Alors c'est pas du tout, je crois pas à la vertu thérapeutique de l'écriture, mais oui, il y a quelque chose de fait dans le sens où déjà, moi je suis toujours émerveillé de voir des gens venir écouter cette histoire. Donc quelque part, la démarche qui est d'inscrire l'histoire d'un père et d'un exilé dans le papier, dans l'histoire, c'est quelque chose qui me satisfait beaucoup. Et on m'a souvent posé la question, et je crois que c'est aussi dans votre question, si ça me fait du bien. Alors ça me fait du bien, mais c'est vraiment pas la démarche. D'abord, c'est faire du bien, rendre l'appareil, rendre hommage, être reconnaissant face à l'histoire d'un homme.
Vos goûts littéraires, romanesques en particulier, ça va vers où? Vous lisez des auteurs du monde arabe, des classiques français, des latino-américains, des romanciers américains?
C'est vraiment très varié. Ça va vraiment de George Orwell qui me fascine. Ouais. Tout le monde dystopique me fascine, et qu'on retrouve d'ailleurs dans Le Parfum d'Irak, qui est un cadre dystopique à la dictature de Saddam Hussein, mais qu'on peut appliquer à d'autres régimes. Évidemment, Hemingway, les grands romans aussi de voyage. Nicolas Bouvier, je pourrais en citer beaucoup. La littérature arabe aussi, c'est par période. Je pense un peu comme tout le monde, on s'intéresse à une littérature par rapport à des émotions, à des moments de notre vie. Albert Camus, la liste serait longue et ce serait peut-être arrogant de tous les citer. Mais
vous êtes à l'écoute de ce qui s'écrit aujourd'hui, par exemple, dans le monde arabe, et vous lisez, vous vous intéressez à cette littérature qui n'est pas la littérature journalistique, j'entends le romanesque, le fictionnel.
On parlait tout à l'heure tous les deux de Sabil, Sabil Rousseau, qui partage en fait quelque part, toute histoire est singulière, mais il partage à peu près la même histoire. Et ça m'intéresse aussi d'avoir le point de vue d'enfants ou d'adultes de ma génération qui ont quelque chose à raconter.
La destinée de ce livre dans le monde arabe, une traduction, c'est quelque chose qui est envisageable, envisagé, souhaité?
On espère évidemment toujours que ces mots soient lus. Et je ne cache pas une appréhension pour le monde arabe, notamment pour l'Irak. C'est aussi commun à d'autres cultures, mais on livre peu les choses familiales, on livre peu l'intime. Et je mentionne des personnages, je restitue des scènes qui pourraient être reconnues dans la famille de mon père. Je ne sais pas comment il réagirait. Le pas de côté du roman ne serait peut-être pas forcément compris de leur part.
Là aussi, la langue française ou une autre langue vous permet ce pas de côté que ne permettait pas ou ne permettrait pas la langue arabe?
Moi personnellement, je pourrais pas de toute façon écrire en arabe et je pense en français. Donc j'ai du mal à envisager une autre écriture.
Tout à l'heure, on disait, et puis on terminera là-dessus, vous étiez irakien à Paris, à Bagdad, vous étiez un peu parisien, et à Dubaï.
En fait, on est, c'est pareil, pardon pour ce simplisme, mais on n'est jamais à 50%, je pense. On est un peu un mélange de tout, une complexité. Non, Dubaï, c'est particulier parce qu'on retrouve vraiment toutes les communautés du monde. Donc si j'ai besoin de manger irakien, c'est facile. Si j'ai besoin d'acheter une baguette et des croissants, c'est facile. Donc on trouve ses repères.
Pour la baguette,
là-bas.
J'entends bien, mais dans le regard de l'autre, vous êtes...
À Dubaï, d'origine arabe ou pas, c'est le passeport qui compte malheureusement. Et quand on est identifié comme français, de nationalité française, on n'est pas du tout questionné sur ses origines. Donc, c'est pas une vraie question là-bas malheureusement.
Merci beaucoup, Ferhat, de vous être livré à ce jeu de questions-réponses.
Merci.
C'était un podcast de l'Institut du Monde Arabe. Retrouvez les podcasts de l'Institut du Monde Arabe sur toutes les plateformes.